de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre « Tous les hôpitaux des États-Unis recevront le vaccin Corona Pfizer lundi matin ». Le premier ministre indien a promis le bien-être des agriculteurs avec la nouvelle loi. Le Mexique autorise l'utilisation d'urgence du vaccin Pfizer BioNTech Corona. L'Association indonésienne des médecins dit que le vaccin COVID-19 Sinovac est toujours en essai clinique. Développer un écosystème de véhicules électriques, étape stratégique de Pertamina. Alors, chers auditeurs, voici le journal incomplet. On a rapporté que les hôpitaux et les centres de santé à travers les États-Unis recevraient le vaccin Pfizer BioNTech COVID-19 lundi matin. Un autre responsable américain a déclaré que le vaccin était prêt à injecter aux millions d'Américains les plus vulnérables. Le vaccin commencera dimanche à quitter l'usine Pfizer de Kalamazoo, Michigan. On garde le vaccin dans une boîte remplie de glace sèche qui peut résister à moins 70 degrés Celsius ou moins 94 degrés Fahrenheit, la température froide nécessaire pour conserver le médicament. Le général Gusperna, qui supervise des opérations logistiques massives dans le cadre des opérations gouvernementales Warp Speed, a comparé le moment au jour J de la Seconde Guerre mondiale. Il a déclaré aux journalistes qu'il était très sûr à 100% que son parti distribuerait en toute sécurité ce précieux produit, ce vaccin, on en avait besoin pour vaincre l'ennemi de COVID. Il fait cela parce que le coronavirus augmente à travers le pays comme jamais auparavant. Le bilan est désormais de près de 300 000 mortes et près de 16 millions de cas d'infection. Le premier ministre indien, Narendra Modi, samedi, le 12 décembre, a assuré aux agriculteurs que la réforme du secteur agraire visait à prospérer. La déclaration est intervenue après que des milliards d'agriculteurs ont continué à protester contre trois nouvelles lois visant à réviser l'achat et la vente des produits. Modi, lors de la réunion annuelle de la Fédération des chambres indiennes de commerce et d'industrie à New Delhi, a déclaré que les réformes aideraient à attirer les investissements dans l'agriculture et bénéficieraient aux agriculteurs. Modi a souligné que le secteur privé doit contribuer à améliorer le secteur agricole du pays. Cependant, Les agriculteurs protestataires des États du Nord craignent que la nouvelle loi finisse par démanteler le marché. Ils craignent également que la réglementation n'empêche le gouvernement d'acheter du blé et du riz à des prix garantis, les laissant à la merci d'acheteurs privés. Le régulateur mexicain de la santé a accordé une autorisation d'urgence pour l'utilisation du vaccin contre le virus Pfizer-BioNTech Corona. C'est ce qu'a déclaré le vice-ministre de la Santé, Hugo López-Gatell, lors d'une conférence de presse, comme l'a rapporté l'agence de presse AFP samedi 12 décembre 2020. Le Mexique est le quatrième pays dont l'agence de réglementation sanitaire, COFEPRIS, a autorisé l'utilisation d'urgence du vaccin Pfizer-BioNTech. Outre le Mexique, l'Angleterre, le Canada, l'Arabie Saoudite, Bahreïn et les États-Unis ont également donné une autorisation d'urgence pour le vaccin Corona. Le gouvernement mexicain a annoncé cette semaine qu'on commencerait la vaccination fin décembre avec le premier lot de 250 000 doses pour vacciner 125 000 personnes, car le vaccin nécessite deux injections. Cependant, pour démarrer le programme, on avait besoin de l'approbation du médicament par COFEPRIS, l'agence de réglementation. Le Mexique a signé un accord pour acheter 34,4 millions de doses de vaccin Pfizer. Après la première série de vaccinations, il espère atteindre 1 million de doses par mois entre janvier et mars et 12 millions en avril 2021. La vaccination COVID-19 de Sinovac est maintenant en phase d'essai clinique à Bandung, Jaffa Occidental. Mais on a rapporté que certains hôpitaux offrent ce service de vaccination. Le président du groupe de travail COVID-19 de l'Association indonésienne des médecins, ou IDI, Ikatan Dokter Indonesia, Zubairi Joerban, a expliqué samedi 12 décembre qu'on pourrait administrer le vaccin COVID-19 à la fin de l'essai clinique de phase 3. L'Association indonésienne des médecins a estimé que la publicité à l'hôpital était inappropriée car le vaccin était encore en cours de test. Après cela, il a été rapporté dans un magazine médical international accrédité. Tant qu'il n'est pas apparu, on ne peut pas encore le porter. Ensuite, si le permis d'urgence n'a pas été publié, la vaccination COVID-19 ne peut pas être administrée. Il a souligné qu'on pourrait se faire vacciner contre COVID-19 si on réussissait l'essai clinique de phase 3. Concernant les vaccinations qu'on pourrait faire dans les deux prochains mois, elle n'a pas nié qu'elle pouvait le faire. Selon lui, s'il n'y a pas de permis de distribution de vaccins, les publicités de vaccination ne devraient pas être annoncées. Quant à savoir si l'hôpital peut ou non promouvoir la vaccination, cela dépendra de l'obtention de l'EUA, ou Emergency Use Authorization, ou d'un permis d'utilisation d'urgence. Le directeur exécutif de l'Institute for Essential Service Reform, Fabi Tumiwa, a estimé que l'engagement de PT Pertamina a accéléré la croissance de l'écosystème du véhicule électrique en Indonésie et une étape stratégique pour le BUMN énergétique face à la transition énergétique. Il a déclaré à Jakarta samedi que ce que fait actuellement Pertamina fait partie de la stratégie de l'entreprise pour survivre en diversifiant ses activités et en entrant dans l'industrie des batteries. Avec cette démarche, a-t-il poursuivi, Pertamina voulait s'assurer qu'elle ne perdait pas d'activité lors du passage des véhicules motorisés à l'électricité. Selon lui, cette étape est importante pour étendre la source de revenus de Pertamina à l'avenir, ainsi que pour remplacer les revenus d'essence qui peut diminuer. Actuellement, Pertamina développe une borne publique de recharge pour véhicules électriques et encourage la pénétration de véhicules électriques en collaboration avec Gojek. On a réalisé l'engagement de Pertamina à travers d'autres études afin de préparer un pilote à utiliser des véhicules électriques avec Gojek. Il a initié une utilisation commerciale des véhicules électriques et de leur infrastructure de soutien avec les chauffeurs partenaires de Gojek qui devrait être réalisé en 2021. Voilà le journal d'aujourd'hui. Bonsoir à tous, voici la mise au point de la semaine dont le titre est « Le vaccin COVID-19 est arrivé en Indonésie ». 1,2 million de doses du vaccin COVID-19 sont arrivées en Indonésie de Chine dimanche le 6 décembre. On a testé cliniquement le vaccin fabriqué par Sinovac à Bandung depuis août dernier. Le vaccin de la société Sinovac fait partie de la première phase d'achat de 3 millions de doses du vaccin de type SARS-CoV-2 de Chine. Le président Joko Widodo a déclaré dans sa remarque virtuelle au palais présidentiel de Bogor, Java de l'Ouest, dimanche soir, que le gouvernement travaillait pour que début janvier 2021, on puisse apporter jusqu'à 1,8 million de doses d'autres vaccins. En outre, il y aura 45 millions de doses de vaccins sous forme de matière première en vrac qui seront ensuite traitées par Biopharma. Selon le président, même si le vaccin était arrivé pour commencer à vacciner, on lui fallait encore des étapes que l'Agence nationale de contrôle des drogues et des aliments, ou BPOM, devait faire.
Dan perlu saya tegaskan, pertama, seluruh prosedur harus dilalui dengan baik dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat serta efektivitas vaksin.
Et je dois souligner, premièrement, qu'on doit suivre toutes les procédures correctement pour assurer la santé et la sécurité publique et l'efficacité des vaccins. Considération scientifique, les résultats de cet essai clinique détermineront à quel moment la vaccination pourra être commencée. Les deux systèmes de distribution de vaccins dans ces régions sont très importants, ainsi que les équipements de soutien, les ressources humaines et la gestion de la vaccination. Nous savons qu'on se prépare depuis quelques mois grâce aux simulations dans plusieurs provinces et je suis sûr qu'après avoir décidé que la vaccination a commencé, tout est prêt. Le président a ajouté que les conditions géographiques de l'Indonésie étaient si vastes ne permettaient pas au gouvernement de vacciner simultanément. Alors, il a rappelé au public de donner la priorité au protocole de santé, à savoir le port de masque, le maintien de la distance et le lavage des mains. On a immédiatement apporté le vaccin COVID-19 qui venait d'arriver au siège social de Biopharma à Bandung, Java de l'Ouest. Là, il a prélevé des échantillons pour des tests de qualité par une équipe de l'Agence nationale de contrôle des drogues et des aliments, ou BPOM, et de Biopharma. La chef de BPOM, Penny Lukito, a déclaré que BPOM délivrerait une autorisation d'utilisation d'urgence ou Emergency Use of Authorization, ou abrégé en EUA, pour le vaccin COVID-19 après avoir évalué les essais cliniques. On a assuré que les EUA publiés par BPOM fassent référence aux normes internationales. L'évaluation des essais cliniques achevés est également effectuée non seulement par le BPOM, mais également par le Comité national pour l'évaluation des médicaments et des experts dans le domaine des vaccins. En outre, le BPOM, en collaboration avec le Conseil indonésien des ulémas, ou MUI, PT Bio Pharma et le ministère de la Santé, ont mené des inspections directes en Chine. Le but est d'assurer le vaccin halal qui sera donné au public. C'est tout la mise au point de la semaine.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 13 décembre. On commence par le 13 décembre 1957, la déclaration de Juanda. La déclaration de Juanda a été inventée le 13 décembre 1957 par le premier ministre indonésien de l'époque, Juanda Kartawijaya. Il déclare au monde que la mer indonésienne comprend les mers environnantes entre et à l'intérieur de l'archipel indonésien en un seul territoire unifié de la République de l'Indonésie. La déclaration de Juanda stipule que l'Indonésie adhère au principe d'un État archipélagique, de sorte que les mers interinsulaires sont également le territoire de la République d'Indonésie et ne sont pas des zones franches. Par le décret présidentiel numéro 126 de 2001, on a été confirmé comme la journée de l'archipel. Cela signifie que le 13 de décembre 2001, on commence à commémorer l'une des journées nationales. Le 13 décembre 1996, Kofi Annan est élu secrétaire général des Nations Unies. Annan était un diplomate ghanéen qui était le 7e secrétaire général des Nations Unies de janvier 1997 à décembre 2006. Annan et les Nations Unies sont récipiendaires du prix Nobel de la paix 2001. Il est le fondateur et président de la fondation Kofi Annan et président de The Elders, une organisation internationale fondée par Nelson Mandela. Le 13 décembre 1996, Anna a été élue par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies comme secrétaire général et on l'a confirmé 4 jours plus tard en votant à l'Assemblée générale. Anna a remplacé le secrétaire général d'Égypte, Boutros Ghali, qui a terminé son mandat. Il est devenu la première personne d'un pays d'Afrique noire à servir de secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le 13 décembre 2003, on a arrêté Saddam Hussein. Saddam Hussein était président de l'Irak du 16 juillet 1979 au 9 avril 2003. Saddam Hussein a été renversé lors de l'invasion de l'Irak menée par les États-Unis en 2003 et il a été capturé par les forces américaines le 13 décembre 2003. Le 5 novembre 2006, le juge en chef Raouf Rachid Abdelrahman a condamné Saddam Hussein à mort par pendaison pour crime contre l'humanité. Le 30 décembre 2006, il a exécuté Saddam, âgé de 69 ans. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Takkan pernah terlintas untuk tinggalkan kamu jauh dariku, kasihku. Karena aku milikmu, kamu milikku, separuh nyawaku. Hidup bersamamu, berdua kita lewati. Meski hujan badai takkan berhenti,
takkan berhenti.
Sehidup semati, mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya, aku takkan kemana-mana. Aku kan selalu ada, temani hingga hari tua. Percaya, aku takkan kemana-mana. Setia akan ku jaga, kita teman bahagia. Takkan pernah ku lupa kamu yang ku cinta, dari ujung kaki hingga ujung kepala. Aku ingin kamu, kamu yang ku mau, belahan jiwaku, kamu masa depanku. Berdua kita lewati, meski hujan badai takkan berhenti, sehidup semati. Mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya, aku takkan kemana-mana. Aku kan selalu ada, temani hingga hari tua. Percaya, aku takkan.
première chanson indonésienne, J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie.
Voici mon Indonésie est intitulé MP1 collabore avec Dorna pour présenter la série indonésienne MotoGP Esport. La société de gestion sportive indonésienne MP1 a signé un contrat pluriannuel avec Dorna Sport pour présenter la compétition MotoGP Esport indonésien Series en 2021. On a conclu le championnat comme un tremplin pour les joueurs vers la Wine Trail Rising Star Series, une initiative lancée par Dorna en 2020 pour découvrir et nourrir de nouveaux talents esport dans le monde. En outre, la série MotoGP Esport indonésienne donnera aux joueurs la possibilité de participer à la MotoGP Esport Global Series l'année prochaine. Le championnat MotoGP Esport a débuté en 2017 et s'est avéré être un projet couronné de succès ainsi qu'une partie importante du portefeuille de Dorna Sport en tant que détenteur des droits commerciaux de MotoGP. La directrice générale commerciale et créative de MP1, Marissa Komala, dans un communiqué de presse, comme l'a rapporté Antara mercredi, a déclaré que depuis sa création, il y a 4 ans, la compétition MotoGP Esport est passée à 23 défis en ligne, 2 Pro Drafts et 7 activités dans des endroits qu'on diffuse en direct. En 2020, on a attiré plus de 60 millions de téléspectateurs. En effet, le visage du sport et la façon dont de nombreuses personnes participent aux activités sportives, en particulier le MotoGP, ont changé. En revanche, la situation de cette année a grandement accéléré le développement des e-sports. Il a souligné, dans le cadre d'une stratégie de développement du sport automobile en Indonésie, et en particulier de cibler les jeunes talents. Il a établi une coopération à long terme avec Dorna pour accueillir exclusivement la série indonésienne MotoGP Esport. Selon Marissa, MP1 a également montré son engagement à travailler sur l'énorme marché du MotoGP en Indonésie et a lancé au début du mois dernier un partenariat avec Gresini Racing pour présenter la marque de course indonésienne dans 4 classes, à savoir MotoGP, Moto 2, Moto 3 et Moto E à partir de l'année prochaine. Pendant ce temps, le directeur général de Dorna Sport, Pau Serakanta, a réitéré l'engagement de Dorna dans l'esport en MotoGP qui continue de croître. D'abord, à travers le Global Series, puis avec la Wine Trail Rising Stars Series, et la prochaine étape naturelle consiste à créer une série nationale de MotoGP Esport dans un pays où des courses de MotoGP auront lieu dans un proche avenir et où leur communauté de fans de MotoGP est l'une des plus importantes au monde. Selon Serakanta, cet accord et l'investissement de MP1 dans le sport garantissent le succès de la première compétition nationale de MotoGP Esport, la MotoGP Esport Indonesia Series. C'est tout mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Saat ku berpaling, tak sengaja melupakanmu, tapi hatiku selalu untukmu. Denganmu kutemukan cahaya hatiku, denganmu kutemukan cinta sejatiku. Ada cinta dan ada benci, kita tertawa dan menangis hingga akhir umurku nanti. Kau tak pernah terganti. Mencintaimu sungguh mudah, semudah 1, 2, 3. Tapi ternyata cinta kita tak semudah yang kita kira. Ada saat ku berpaling, tak sengaja melupakanmu, tapi hatiku selalu untukmu. Denganmu kutemukan cahaya hatiku, denganmu kutemukan cinta sejatiku. Ada cinta dan ada benci, kita tertawa dan menangis hingga akhir umurku nanti. Kau tak pernah terganti, hanya kau yang bisa.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Voici le magazine culturel de Voice of Indonesia. Et cette fois-ci, je vous présente l'un des délices culinaires traditionnels légendaires de Gorontalo, nommé labulo. Ce plat, à base de farine de sagou, n'est pas seulement l'aliment préféré des rois de Gorontalo, mais aussi un menu préféré pour rompre les jeûnes. Chers auditeurs, labulo est un aliment à base de farine de sagou qu'on ajoute avec diverses garnitures comme des œufs de poule, de la viande de poulet, du bœuf ou du gessier auquel on donne ensuite des épices spéciales. Pour préparer cet aliment,
Enveloppez-le d'abord dans des feuilles de bananier et faites-le bouillir. Cependant, pour ceux qui préfèrent le goût des grillades, vous pouvez les brûler selon votre goût. Donc, il n'est pas surprenant que les touristes et les résidents locaux chassent pour cette nourriture, en particulier pendant le mois de Ramadan. Chers auditeurs, on peut manger le labulo, un aliment typique de Gorontalo enveloppé dans des feuilles de bananier, car il est mûr après l'ébullition. Mais il n'est pas rare que la communauté puisse également le traiter à nouveau en le brûlant ou en le faisant frire. Un labulo contenant de la pâte de sagou, du bouillon, du foie, du gésier, de la graisse de poulet, ainsi que des épices subtiles telles que les échalotes, les piments, le poivre et le sel, est parfait si on en mange avec un accompagnement sous forme de gruau. Bubur jagung, ou le gruau à Gorontalo, on le connaît sous le nom de binte biluhuta. Cet aliment contient des légumes, du listau, des crevettes, du maïs sucré, des tomates et du basilic. Le labulo, qui a une texture moelleuse avec un goût légèrement épicé, coûte environ 5000 rupias à 7500 rupias par paquet. On peut l'utiliser comme souvenir car il peut durer environ 3 jours même si on ne le met pas au réfrigérateur. Alors, si vous visitez Gorontalo, goûtez ce labulo, car il est incomplet si nous n'avons pas goûté à la cuisine typique de Gorontalo.
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie. Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur et cette fois, nous vous informons sur Jammu d'aujourd'hui pour la génération du millénaire. Jammu est une boisson traditionnelle indonésienne ou en phytothérapie ou boisson aux herbes qui présente divers avantages pour la santé. Jammu est fabriqué à partir de diverses épices. Cependant, peut-être que les milléniaux ne sont pas très intéressés par jammu, les boissons à base de plantes traditionnelles. Une universitaire et conférencière au département d'anthropologie, faculté des sciences sociales et politiques, Université Airlangga, Surabaya, Pinky Saptandari a déclaré qu'elle devait apporter des modifications pour que la génération du millénaire aimerait jammu. On peut le modifier en développant de nouvelles recettes tout en conservant les propriétés et la substance. Cela a été exprimé par Pinky lors de l'événement classe de Maître Spice Pet du ministère de l'Éducation et de la Culture sur le thème « Connecter les goûts, Maître mondiaux des épices 2020 » récemment à Jakarta. Selon Pinky, de nouvelles recettes pourraient émerger par un concours pour créer de nouvelles créations d'épices ou de boissons à base de plantes. En fait, si on reconnaissait la nouvelle recette, il pourrait en faire une boisson nationale à servir aux invités de l'État. Cela créera certainement une image attrayante, savoureuse et saine en jammu ou phytothérapie. Il est possible que ce soit également la pression pour les cafés de servir des plantes médicinales avec une apparence et un emballage attrayant. Pendant ce temps, le PDG de PT Sue Ora Jammu, Amerta Nova Dewi Setiabudi, a déclaré que l'un des objectifs les plus importants de son entreprise dans la fabrication de jammu était le goût. Son parti veut apporter une touche de goût que les jeunes peuvent apprécier afin d'éliminer l'impression que jammu est amer, une boisson des vieux et n'est pas délicieuse. En fait, jammu est une boisson santé qui peut aider à maintenir la santé, la forme physique et la beauté. Amerta Nova a déclaré qu'elle ne voulait pas forcer les milléniaux à boire de jammu, mais qu'elle voulait qu'ils en profitent.
Dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berdusta pada guru.
yang berbaris di dinding menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Masa-masa paling indah. Kasih di sekolah,
cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Voilà la dernière chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute!
Cette édition, je parle d'une chanson de la belle chanteuse Aya Anjani. Elle est la fille du claviériste légendaire du groupe God Bless, Yoki Suryo Prayogo. Bien que son nom ne soit pas aussi célèbre que son père, Aya Anjani a réalisé de nombreuses œuvres. En 2019, Aya a repris une chanson à succès des années 1980 popularisée par Krishe. La chanson est intitulée Juita, qui a été écrite par son défunt père et Junaidi S. La chanson a été réarrangée en mémoire d'un an après le départ de Yoki en 2018. La chanson Juita a été chantée à nouveau par Aya avec une approche de production plus moderne sans changer l'arrangement et l'essence de la chanson originale. Les noms Petra Sihombing et Jonathan Mono ont également été choisis pour produire cette chanson. En plus d'être l'une des chansons chefs d'œuvre de l'Indonésie, elle a admis qu'à cette époque, elle aime vraiment des anciennes chansons au passé. Même avec des arrangements modernes, elle espère que la mémoire qui représente la génération à cette époque se fasse sentir. Elle souhaite que cette chanson puisse encore représenter chaque génération. Bon, chers auditeurs, voici la chanson intitulée Juita, chantée par Aya Anjani. Bonne écoute!
Chers auditeurs, voilà l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.